Servez le Seigneur avec joie. C'est son ordre. Venez avec joie. Pour son honneur, car il est notre roi. Il est notre Dieu. Dans toutes les détresses, il est notre secours. Louez notre Dieu, notre roi. Servez-le en tout temps. Nous voulons lui faire confiance. Jusqu'à dans la gloire. Servez le Seigneur avec joie. Venez devant sa face. Chantez-lui un nouveau cantique. Il nous prend par la main. Et nous conduit jusqu'au but. Tout a eu lieu pour nous. Loué soit-il. Servez-le. Nous voulons lui faire confiance dans la vallée du temps, jusqu'à dans l'éternité. Nous voulons ensemble lire un psaume avant la prière. Je voudrais lire le psaume 105. Nous voulons ensemble nous lever pendant la lecture de cette parole de Dieu. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel s'est confirmée comme étant vraie en allemand. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Et en voyant Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi, ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang. Au verset 28, c'est le contraire qui est écrit en allemand. Et ils furent rebelles à sa parole. Il changea leur eau en sang et fit périr leurs poissons. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leur champ. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils observent ses lois. Loué à l'Éternel. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que nous aussi nous pouvons élever ton nom, louer ton saint nom. Nous te remercions de ce que nous pouvons te chanter des cantiques, te chanter, te louer, te jouer des instruments et parler de tes merveilles. Car tu es un Dieu qui fait des miracles, qui fait des merveilles jusqu'à dans nos jours, Seigneur. Tu n'as pas encore cessé, arrêté avec tes merveilles, avec tes miracles, tes prodiges. Merveilleux, nous louons ton saint nom. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es devenu pour nous tout en tous. En tout. Tu es notre force. Oui, Seigneur. Comment nous ne devrions pas te louer? Comment nous ne devrions pas élever ton saint nom, qui est au-dessus de tous les noms? Seigneur, s'il y en a qui rejettent ton nom, mais nous, Seigneur, nous élevons ton nom. Car tu es notre Dieu. Nous te louons et te donnons à toi seul l'honneur. Nous te demandons ta bénédiction, que tu puisses être avec nous aussi pendant cette heure, pendant ces jours. Bénis-nous, Seigneur. C'est notre prière et notre requête. Reçois, Seigneur, tout ce qui dérange. Ôte de parmi nous tout ce qui dérange. Que chaque cœur soit ouvert et reçoive ta parole et la croire. Et te donner l'honneur et la reconnaissance pour cela. Loué soit ton saint nom. Merveilleux de Jésus. Amen. Père céleste, nous venons devant ta sainte face dans le précieux et saint nom de Jésus. Seigneur fidèle, nous voulons que tu parles avec nous et que nous aussi nous puissions parler avec toi. Seigneur, purifie nos mains, nos cœurs et nos lèvres. Purifie nos pensées et tout ce qui ne peut pas subsister devant toi dans son état actuel. Seigneur, Sauveur fidèle, nous te demandons que tu puisses nous faire grâce tel que tu l'as promis et aussi tel que souvent tu l'as prouvé. Seigneur, comme mon précieux frère, mon cher frère priait, ôte de nous tous et aussi de cette salle. Ôte, prends-le. Ôte, retire chaque pensée qui vient de l'ennemi et accorde-nous la conduite claire de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te voir, t'entendre, t'expérimenter. Que personne reparte de ce culte, de cette réunion, tel qu'il est venu. Que nous puissions tous nouvellement reconnaître et être conscients que nous avons affaire à toi, le Saint Dieu, avec lequel nous ne pouvons pas nous tenir au même niveau, car tu es saint. Et nous te demandons, Seigneur, sanctifie-nous par ta présence, par ta parole. Purifie-nous par le sang répandu de l'agneau. Seigneur, qui est une époque qui vient à sa fin, qui passe et qu'une nouvelle commence, une nouvelle époque commence. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, agrée-nous tous et garde-nous tous sous l'obéissance de ta volonté et accorde-nous ta grâce que nous puissions nous soumettre à chaque parole, car tu ne nous laisses plus faire ce qu'on veut. Seigneur, je ne veux pas seulement avoir prêché, mais je veux tous revoir dans la gloire tous ceux qui, dans ce temps, ont écouté ta parole. Seigneur fidèle, sois présent. Accorde-nous la grâce pour t'entendre et te voir. Loué et exalté, soit ton saint nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous avons tous lu avec notre frère et entendu le psaume, la parole du psaume. Chaque parole que nous lisons parle à notre cœur. La question est seulement, est-ce que à notre temps, à notre situation, nous pouvons employer ce que nous écoutons de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour édifier, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, si nous lisons, quand nous lisons la parole de Dieu, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans les prophètes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, nous rencontrons toujours le même Dieu, qui, nous avons toujours affaire au même Dieu, qui de la même manière a parlé et a agi. Auprès de Dieu, rien ne change, jamais, rien ne peut changer. Ce n'est pas possible parce que lui-même, il est immuable, Il n'y a pas d'ombre de changement en lui. Et c'est ainsi que sa parole est aussi immuable. Et elle ne peut pas changer. Et quand nous lisons ce psaume sur l'histoire, si nous avons lu ce psaume sur l'histoire d'Israël, et dans la lettre circulaire qui va sortir en décembre, je l'ai mentionné, décembre 83, que Dieu, avec ses serviteurs et avec son peuple, suit des chemins incompréhensibles. Si quelqu'un réfléchit naturellement, un homme peut réfléchir. Alors, il peut commencer même avec cela et poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis la chute de l'homme? On peut, depuis le commencement jusqu'à la fin, utiliser le mot « pourquoi ?» Pourquoi? Et à la fin, on n'aura pas de réponse à toute notre question. Donc, pas pourquoi, mais reconnaître ce que Dieu avec nous et ce que Dieu avec les autres qui vivaient avant nous avait comme intention et de quelle manière il a exécuté son programme du salut, comment est-ce qu'il exécute vraiment avec le but qui s'est fixé devant les yeux. Alors, si nous lisons, par exemple, de Joseph, par exemple, dans la Bible, il est, n'est-ce pas, parmi les prophètes, placé comme un exemple parfait. Je le mentionne ici dans la lettre. Il n'a même pas été, on ne lui a pas posé la question à Joseph, et cela me touche. Personne de tous ces hommes de Dieu, ont reçu comme question, est-ce qu'ils acceptent de suivre le chemin que Dieu a désigné pour eux, a prévu pour eux, à Moïse, ou bien à Joseph. Joseph, il a dit Moïse, c'est Joseph. Est-ce qu'il aurait bien voulu être jeté dans le puits ou bien être vendu en Égypte, ou bien aller en prison? Il devait supporter tout ça. Dieu ne lui a pas posé la question demandée à l'avance. Une humiliation l'une après l'autre, une insulte l'une après l'autre, jusqu'à que c'était insupportable. Et on aurait pu extérieurement poser cette question, pourquoi est-ce que Dieu doit, avec ses serviteurs, suivre de tels chemins? Et là, il est dit quelque part, cette phrase, peut-être même que c'est dans ce psaume, je ne l'ai pas entièrement entendu parce que j'étais arrivé en retard. Mais il est écrit quelque part que Dieu l'avait... Oui, que Joseph fut envoyé, c'est psaume 105, verset 17. Il a envoyé devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave pour qu'il puisse les nourrir pendant la famine. Tout s'est déroulé selon le plan. Donc, il est venu en Égypte. Après, n'est-ce pas, il est devenu le chef et ils ont eu assez de moissons et les greniers ont été remplis et ensuite suivi la famine. Et alors, ce simple verset est écrit que Dieu l'avait envoyé à l'avance, là-bas en Égypte, pour prévoir cela. Mais cet envoi est passé par tant d'humiliation, de détresse, de mépris, à tel point que c'était extrêmement difficile. Et là, nos questions commencent. Est-ce que cela devait se dérouler comme ça? Oui, cela devait être ainsi. Ça, c'est le chemin de Dieu. Et si le Seigneur n'était pas passé lui-même par le même chemin, alors, n'est-ce pas, on aurait peut-être pu reprocher sa façon d'avoir agi avec ses serviteurs, ou bien alors, peut-être pas. On n'oserait pas. Mais ici, notre Seigneur est passé par le même chemin. Son aspect n'avait rien pour nous plaire et cela ne ressemblait plus à un fils d'homme. Il n'y a pas eu une humiliation qui lui aurait été épargnée à notre Seigneur. On lui a craché là-dessus et c'était même prophétisé. On lui a caché le visage. et on l'a frappé. Et ils ont dit, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé? C'était des chemins d'humiliation que les hommes de Dieu avaient à suivre pour que le Seigneur et aucun homme soit glorifié. Dieu donne sa gloire à aucun autre. Et si cela servirait seulement à ce que la gloire reste seulement attribuée à Dieu, alors tout aura servi à quelque chose, même les détresses des hommes de Dieu. Si on lirait seulement 42 chapitres de Job avec tous ses entretiens étant assis sur la cendre et qu'à la fin il ne serait pas écrit que le Seigneur a restauré tout de manière double. Il a fait ce qui était bien, il a rétabli toutes choses et qu'à la fin, toujours, cela s'est bien terminé. Ça, il faut le dire. Les gens prétendent d'un film, j'ai jamais vu de film de toute ma vie, mais il y en a prétendent toujours que la fin est toujours heureuse, quoi qu'il serait arrivé en temps dans le déroulement. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, mais avec Dieu, c'est vrai. La fin est toujours bien, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que les chemins de ses serviteurs ou bien les conduites de son peuple étaient? La fin a toujours été en accord avec la détermination divine et tous ceux qui ont marché sur les voies de Dieu, on les reverra dans la gloire. Et que cela est ainsi, nous le savons, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas besoin de nous étonner quand nous passons par des épreuves et des afflictions, quand nous devons passer. Pendant que j'écrivais cette lettre circulaire, elle est encore fraîche dans mon cœur et dans ma mémoire. J'ai dû aussi penser à ce que tous les faux prophètes, n'est-ce pas, ont été laissés tranquilles. Qui a de ces gens laissé répandre? Qui a répandu son... Qui d'eux ont répandu leur sang? D'Abel jusqu'à Zacharie. Les prophètes ont été tués et mis à mort. Et de quoi il s'agissait? Est-ce qu'il s'agissait d'Esaïe? Est-ce qu'il avait quelque chose? Est-ce qu'il avait commis un crime? Ou bien d'un prophète, un autre prophète? Non. Il s'agissait d'une seule chose et unique chose. Ces hommes étaient des porteurs de la parole de Dieu. Et ils ont reconnu la volonté de Dieu par la parole de Dieu et ils l'ont transmise. Ils avaient à apporter la parole de Dieu, la volonté de Dieu à l'humanité. Et Satan avec un seul objectif, c'était d'hybrider la volonté de Dieu pour anéantir le plan de Dieu et le rendre impossible de s'accomplir. Et c'est comme ça qu'il a tué l'un après l'autre, ou bien laissé tuer l'un après l'autre. Mais il y a une chose qui n'a jamais été tuée, c'est-à-dire la parole de Dieu qui a été adressée à ses prophètes et à ses hommes de Dieu. Qui était adressé. La parole nous est toujours restée. Et c'est de cette parole qu'il s'agit aujourd'hui, plus que jamais auparavant. Et ça aussi, je l'ai exprimé dans la lettre circulaire. Si, n'est-ce pas, on s'ouvrait à toutes ces différentes interprétations, le diable nous laisserait tranquille encore dès aujourd'hui. Alors nous n'aurions aucune valeur pour lui et personne ne parlerait de nous et le diable aurait atteint ce qu'il voulait dès que nous nous ouvrirons à une interprétation. Et il jouerait ici, n'est-ce pas, le chef de chambre et le chef dans l'église et tous nous chanterions heureux. Non, mais Dieu ne nous a pas déterminés à ça. Il y a des hommes qui habitent sur cette terre Et nous avons la grâce d'appartenir à ces gens qui, depuis le commencement, étaient déterminés en tant que semence incorruptible, en tant que semence divine, à recevoir dans leur cœur la parole de Dieu et à se fermer à tout le reste, tel que Jésus-Christ, notre Seigneur, était la pure semence-parole, parole-semence, semence-parole. C'est ainsi que si nous voulons être son Église, ou bien nous sommes son Église par sa grâce, nous devons être aussi la semence pure parole. Et ça, nous allons encore traiter ce sujet, parce que c'est de ça qu'il s'agit vraiment en fait maintenant. Que l'Église reçoive un cœur pur, un cœur purifié pour que la semence pure ne soit pas de nouveau mélangée et hybridée et produise un produit croisé, hybridé, mélangé, mais que maintenant, à la fin, la pure semence de la parole de Dieu révélée, sans mélange, mais aussi dans des cœurs purs, soit puisse être placée. À quoi est-ce que la meilleure semence servirait si le champ n'est pas défriché, n'est pas bien travaillé, si il n'est pas, n'est-ce pas, délivré, purifié, défriché de tout le reste, si les conditions ne sont pas créées pour recevoir la bonne semence. Et je crois que Dieu, le Seigneur, fait les deux. Il fait les deux en son temps. Il a les hommes qui lui ont mis à sa disposition tout leur cœur. Et il a aussi le message qui est reçu par ces hommes. Et c'est ainsi que là, nous pouvons, avec Abraham et tous les prophètes jusqu'à Marie, venir alors que le message s'était adressé à elle. Le Seigneur est avec toi et tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et l'annonce était que Christ doit naître. Et comment est-ce que cela a eu lieu? En ce que la promesse de la parole de Dieu pour le temps a été prononcée, annoncée et reçue, reçue. Et c'est ainsi accepté, c'est ainsi que la parole de Dieu naquit. La parole de Dieu est devenue chair, est devenue chair. Nous allons encore parler de ces choses, mais elles sont réellement d'une très grande importance. Plus de mélange, plus aucun mélange, mais vraiment dans la réalité, la pure parole de Dieu. Le pur esprit de Dieu. Les cœurs purs qui ne deviennent pas une force de meurtrier, mais qui par la grâce de Dieu sont gardés, sont gardés. C'est vraiment ainsi que dans les jours du Seigneur, alors qu'il marchait il traversait cette terre, il y a eu assez d'hommes qui étaient selon l'extérieur justes, mais leur cœur était une tanière de voleurs. Dieu cherche des hommes selon son cœur, à qui il peut parler, qui n'ont plus de propres opinions, de propres façons de voir les choses et qui ne veulent pas mieux pouvoir tordre et interpréter sa parole ou bien veulent tordre le sens, mais qui commencent là où il commence et arrêtent là où il a cessé. Et le laisse seul avoir la parole et ce qu'il l'a dit et ce qu'il a dit le recevoir, car la parole a la puissance créatrice en elle pour reproduire, pour créer ce qui est promis dans la parole. La parole a la capacité de le créer, ce qu'elle promet. Donc, alors que Marie entendait cette annonce pour la première fois, tu as trouvé grâce auprès de Dieu et tu seras mère d'un fils, bien sûr. Et s'est demandé, mais comment est-ce que cela doit arriver? Je ne connais aucun homme, n'est-ce pas? La même chose, nous devons aussi nous pouvoir le dire. Je ne connais aucun homme. Je ne connais plus aucun homme. Et qu'est-ce que Paul adresse aux Corinthiens? N'êtes-vous pas charnel? Car l'un s'attache à Paul, l'autre à Pierre, l'autre à quelqu'un d'autre. Il dit, mais où est-ce que vous voulez aller avec tout ça? Vous êtes charnel. Et si nous rapportons cela au temps d'aujourd'hui et tirons cette comparaison, oui, mais quel registre peut être là, énuméré et écrit? Quelle liste? L'épouse de l'agneau, l'église du Dieu vivant, ne va plus rien avoir à dire qui vient d'un homme, ou bien elle va rien se laisser dire d'un homme, ou bien recevoir quelque chose d'un homme, mais elle va que recevoir et écouter la pure et précieuse et vraie parole de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui viendra sur tous ceux qui ne connaissent aucun d'un homme et qui ont fait que prêter l'oreille à la parole de Dieu promise pour ce temps et l'ont reçue et l'acceptée. C'est sur eux que l'Esprit de Dieu viendra. Et c'est en eux que sera que c'est d'eux que sortira ce que Dieu a promis dans sa parole. Et c'est eux qui seront remplis de Saint-Esprit. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose de clair. Dieu nous a séparés, éloignés de toutes les bouches des hommes et nous a laissé savoir. L'homme vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous a fait savoir que chaque homme est un menteur et que Dieu et Dieu seul est véritable et reste véritable. Et si nous avons compris cela, que de l'enseignement humain, nous avons été éloignés, retirés, sortis, et que nous avons à nous tenir à la disposition de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions encore une fois nous asseoir au pied d'un homme quelconque? En Inde, il n'y a pas, comme les gens en Inde, s'assied au pied d'un gourou qui a quelque chose de spécial à leur dire. Non, tous ces temps-là sont passés. Que vous pouvez maintenant l'accepter ou pas, mais l'enthousiasme sur un homme qui subitement, avec un nouveau enseignement ou bien une nouvelle révélation, vient. Ces enthousiasmes-là, avec l'année 84, de toute manière, prendront fin. Car plus rien restera de leur enthousiasme. Car plus rien ne restera de toutes ces pronostics qui ont été faits et ces temps qui ont été fixés. Tous se tiendront là comme des insensés. Dieu ne nous a pas déterminés à fixer les temps ou les moments, mais de reconnaître plutôt le temps dans lequel nous vivons et dans la foi accepter, recevoir le message divin pour que sa parole puisse produire en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée et exécuter sa volonté. Dans ce cas, ici, en ce qui concerne le peuple d'Israël, c'était Joseph que Dieu, d'une manière particulière, conduisait dans un chemin particulier. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 11, nous lisons au verset 2. « Il dit le verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence d'après ce que ses yeux voient. En allemand, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Mais ça, c'est de nouveau pas rapportable à un homme. Il n'y a aucun homme qui peut prononcer avec droiture un jugement. Lui-même, il doit s'attendre à ce que Dieu juge droitement et que Dieu porte son jugement. Nous, nous ne pouvons pas, même pas, nous estimer notre état nous-mêmes ou bien porter un jugement sur nous-mêmes, encore moins aux autres. Si on ne connaît même pas les circonstances de leur vie et la situation. Non, notre Seigneur, lui, il ne prononce point sur un oui-dire ou bien sur l'apparence, mais avec justice et véracité dans la droiture et la fidélité. C'est ainsi que nous savons qu'avec son évaluation de la situation, nous ne serons pas dans l'erreur parce qu'auprès de lui, tous les courbés, les malheureux cherchent un refuge et ceux qui ne peuvent pas s'aider, ils peuvent venir au Seigneur. Il y en a qui, d'eux-mêmes, tant qu'ils vivent, étaient croyants. Mais il y a aussi des gens qui, de tout leur cœur, viennent au Seigneur et disent, « Me voici, Seigneur, agrée-moi, accueille-moi, prends-moi tel que je suis. » Mes bien-aimés, nous voulons résumer ce soir. Dieu envoie ses messagers, les conduit dans des voies extraordinaires, incompréhensibles, étranges, à tel point qu'on peut avoir pitié d'eux et avoir presque regret et dire, mais pourquoi est-ce que tout cela doit arriver ainsi? Je ne sais pas si Joseph, une unique fois, a murmuré, s'est plaint. Je ne sais pas si une seule fois, il a menacé. Je ne sais pas si une seule fois, il a eu une rébellion, une colère contre ses frères. Il est allé dans le puits, dans la fosse, et tel qu'il est tombé, c'est ainsi qu'il est resté là-bas dans la fosse, tombé, couché, et a fait confiance à son Dieu. C'est ainsi que tel qu'il a été pris de la fosse, c'est ainsi qu'il a continué son chemin dans le voyage. En tout cas, ce n'est pas écrit dans la Bible que Joseph aurait en voulu à ses frères ou bien aux hommes ou bien à Dieu. Non, Joseph savait dans le plus profond de son être que Dieu avait un haut objectif avec tout ce qui se passait. Et cela lui a donné assez de force de rester calme malgré tout, de ne pas former le point et de n'en vouloir à personne et de dire, ah, quand je vais sortir de cette situation, ah, je vais me venger. Non, il est sorti de cette situation et il est allé en Égypte. Dieu avait planifié tout ainsi, conduit tout ainsi, que nous voulions admettre cela ou pas. Même avec notre Seigneur, cela a dû être ainsi que les Juifs, autrefois, le rejettent pour que nous, des nations, nous puissions être inclus dans le salut. Car c'est ainsi que c'était déjà par Ésaïe dit à l'avance et par Osée et par les prophètes que ceux qui n'étaient pas mon peuple seront appelés fils du Très-Haut. Toutes ces écritures-là devaient s'accomplir. Nous pourrions aujourd'hui, n'est-ce pas, nous retenir aux Juifs et dire, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous avez... Et aussi, dans tous les autres temps aussi, peut-être même, dans notre temps aussi, se poser des questions et se demander, mais pourquoi est-ce que tout cela devait arriver ainsi? À la fin, nous allons reconnaître ça clairement. Et si cela n'avait pas d'autre sens, et au moins un, et ça c'est le plus grand, que Dieu a mis fin à tout le mélange et par cela a posé les conditions, le fondement pour un nouveau commencement. Si cela était ainsi dans le plan de Dieu, alors pourquoi est-ce que nous devrions pas, pourquoi est-ce que nous devrions être contre ce qui se passe? Vous n'êtes pas dans les chaussures d'un Joseph ou bien dans les chaussures de l'un des autres hommes qui devaient passer par des chemins étranges. C'est peut-être que vous pouvez être en fait satisfait aujourd'hui. Notre Dieu a un plan merveilleux et il l'exécute. Il l'accomplit. Cela pourrait nous sembler inconsistant, que ça, il n'y a pas de logique, mais pour Dieu, cela, mais pour Dieu, oui, cela se rime à 100% et toutes les promesses pour le dernier temps, tout, n'est-ce pas, doit s'accomplir et ça, nous l'avons souvent dit en insistant et c'est peut-être raison que nous nous reposons en Dieu, nous nous reposons dans sa parole, que nous soyons jetés dans la fosse au lion, ou bien alors dans cette fosse, ou bien ceci, ou bien autre chose. Tout cela n'est qu'une situation passagère. À la fin, Dieu va prouver sa fidélité et aucun qui aura mis sa confiance en lui a été confus, jamais, personne a été confus qui a mis sa confiance en lui. Et il n'est pas écrit, regardez leur commencement, regardez à leur milieu, au milieu de leur vie ou bien au commencement, mais il est écrit dans Jacques, regardez à la fin que le Seigneur leur accorda, à la fin, à leur fin, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup ont fait un nouveau commencement, un bon commencement, un bon commencement. Cela ne peut pas être renié. Le bon commencement ne sert à personne si la fin aussi n'est pas bien. Et avec Dieu, la fin sera bien. Tout le découragement, toute la suffisance, la propre suffisance, la confiance en soi, toute la confiance en soi, tout cela nous a été ôté. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous ne pouvons que lui faire confiance à lui et à lui seul. Et c'est ainsi que notre force intérieure subsistera. De ce que ce n'est pas à nous que nous avons fait confiance, ce n'est pas à nous-mêmes que nous avons fait confiance, mais nous avons fait confiance au Seigneur qui a parlé avec nous. Nous ne nous attendons pas, nous ne nous dirigeons pas d'après ce que les oreilles entendent ou bien nos oreilles voient. Et il ne juge pas selon ce que ses yeux voient, selon l'apparence, et ce que d'après ce que ses oreilles ont entendu, mais avec droiture, avec justice, avec fidélité. Et il évalue les choses selon ce qui s'est passé à Golgotha. C'est-à-dire que nos péchés ont déjà été jugés avec Christ, dans la chair, en Christ, et avec lui, et que nous avons été crucifiés avec lui, et nous avons souffert avec lui, nous sommes morts avec lui, et nous sommes ensevelis avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui par la grâce de notre Dieu. Le chemin des rachetés est le même chemin que celui du Sauveur. Et ça, nous allons encore insister là-dessus, c'est le point duquel il s'agit maintenant. Le Sauveur, le Rédempteur, vint par une vierge. La parole de la promesse est devenue chair. L'Esprit l'a fait apparaître. La vie a été manifestée par l'Esprit. Et c'est la même chose qui se passe aussi avec l'Église du Dieu vivant maintenant à la fin. Autrement, la restauration n'est pas justifiée. Même pas le mot « restaurer », encore moins ce qui est lié à cela. Donc, si ce n'est que la parole de Dieu et le message de Dieu ont produit en toi et en moi et dans tout le peuple de Dieu, ont produit, ont exécuté les choses pour lesquelles elles ont été envoyées. Et comme autrefois, la parole avait été envoyée pour que notre Rédempteur, notre Sauveur puisse naître et être manifesté. C'est ainsi que maintenant, la parole a été envoyée avec un objectif, avec le même objectif, pour que nous, en tant que sauvés, en tant que rachetés, nous soyons manifestés en tant que fils et filles de Dieu, naissant de l'Église. Vous savez que l'épouse naîtra de l'Église. La semence est placée dans l'Église. Mais ce qui naîtra, ce qui sera manifesté en tant que le fruit de la semence, ça c'est la semence divine. Et cela sera manifesté que tous ceux qui sont de Dieu n'écouteront plus rien d'autre, ne croiront plus rien d'autre que le « ainsi dit le Seigneur » de la parole de Dieu. Et je crois par pleine conviction que Dieu a voulu les choses ainsi, a pensé les choses ainsi et qu'il nous a ramenés à cette semence, à cette parole originale en tant que semence incorruptible, divine, pour qu'une moisson divine ait lieu. Pas une moisson mélangée, mais une moisson divine puisse être récoltée dans ce dernier temps. Dieu accordera sa grâce pour ça. Et à la fin, nous pourrons regarder en arrière et dire, Seigneur, toutes tes voies étaient merveilleuses. Je veux encore une fois, volontiers, les entreprendre si seulement j'atteins le but. Les suivre. Et ça, Dieu le fera avec nous tous. Nous verrons sa face parce que nous lui avons apporté la foi totale à lui et à sa parole. Ça, que Dieu puisse l'ancrer en nous profondément. Qu'il y ait comme un système d'alarme en nous. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, que tout de suite, ce signal d'alarme, on l'entend dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Que Dieu, par sa grâce, puisse nous l'accorder, un système d'alarme. Il est capable de le faire et il nous gardera. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Ô Seigneur fidèle, qui sommes-nous de ce que ici devant ta face nous pouvons être rassemblés? Seigneur fidèle, nous voyons et écoutons personne d'autre en dehors de Jésus et Jésus seul. Nous te remercions pour tous les prophètes, pour tous les apôtres, pour tous les serviteurs de Dieu. Mais sur la montagne de transfiguration, dans ta présence, si nous sommes enveloppés dans ta gloire, alors nous voyons et nous écoutons seulement que toi. Alléluia. Et nous ne voyons que toi. Toi, le, l'agneau de Dieu précieux qui a tant fait pour nous sauver. Et maintenant, de, pour nous faire sortir de toute l'erreur et nous séparer pour nous tenir à ta disposition parce que tu as quelque chose de particulier à faire avec nous. Seigneur, que bientôt, très bientôt, parmi ton peuple, plus il ne soit plus dit, as-tu déjà entendu ce que frère tel et tel a dit ou bien a enseigné? Oh Seigneur, que tu puisses mettre fin à tous ces façons de parler. Oh Dieu, que nous puissions seulement avoir qu'un seul témoignage. Et c'est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Seigneur fidèle, nous sommes dans cette prophétie. Nous avons été placés dans cette prophétie. Nous prenons part à ce déroulement de l'histoire du salut. Et pour cela, nous te rendons grâce au Dieu. Seigneur, pas seulement parce que nous le disons avec des mots, mais parce que cela est ainsi. Tu nous as révélé ta parole. Tu nous as révélé ton plan. Tu nous as fait savoir tes mystères. Et nous pouvons encore confesser, tu nous as conservés. Tu nous as gardés à ne pas avoir dévié de tes voix et de ta parole. Précieux Seigneur, ta parole est déterminée à ton peuple. Et ton peuple est déterminé à ta parole, pour ta parole. Aide-nous pour que nous puissions, jusqu'à la dernière conséquence, reconnaître ça et que nous puissions laisser venir cette vérité sur nous et agir aussi de cette manière-là, pour l'honneur de ton nom. Nous comporter ainsi. Mon cœur est profondément touché et mouvementé et poussé à te louer et te remercier pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Dans notre pays, dans les pays voisins, en Europe, en Asie, en Afrique, sur tous les continents, tu as parlé et tu as laissé retentir ta parole et tu nous as fait grâce d'avoir part à la propagation de la parole et à la distribution de la nourriture spirituelle. Seigneur, cela nous humilie, nous rend petits dans la poussière devant toi. Parmi ces millions et ces milliards, tu aurais trouvé assez de personnes qui auraient été prêtes à marcher avec toi. Mais Seigneur, tu ne nous as pas aussi demandé à l'avance. Tu as ordonné avec à voix haute et élevée et tu as dit, tu enverrais de ville dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tu n'as pas demandé, tu as ordonné. Alléluia. À voix audible. Je te remercie que jamais de mes lèvres dans la prédication quelque chose vienne. Si ce n'est que c'est ta sainte parole qui est sortie, venue de ton trône et qui se tiendra devant toi. Bénis notre bien-aimée visite de la Sicile. Bénis notre bien-aimé frère Molodra, Seigneur. Aussi lui, il est passé par beaucoup de déchirures de cœur, par beaucoup de douleurs et d'incompréhension, mais tu l'as conduit ici. Console-le, fortifie-le, relève-le et utilise-le pour d'autres. Oui, bénis-le et qu'il soit une bénédiction. Ô Seigneur, la même chose, fais-le avec nous tous par ta grâce. Seigneur, je te remercie pour chaque frère, pour chaque sœur, pour tous ceux qui t'ont consacré leur vie au Dieu. Le temps va vers sa fin. Ta dernière parole est adressée à ton peuple, est connue, a été fait connaître à ton peuple et aux hommes. Maintenant, Seigneur, nous te demandons que tu puisses encore appeler plusieurs à sortir. Et si ce soir, quelqu'un serait parmi nous qui aurait encore une bataille intérieure, un combat intérieur, qui n'a pas encore de toi reçu la réponse, Seigneur Dieu fidèle, fais-le maintenant. Accorde la réponse pour que chacun reçoive de l'assurance, de la conviction que ici nous ne sommes pas dans un programme humain, mais que nous sommes dans le plan, avons été placés dans le plan de Dieu, ô Dieu. Que à chacun, cela soit accordé de reconnaître du premier jusqu'à la fin, en tant qu'une révélation divine dans son cœur, qui puisse recevoir cela, que c'est toi qui as conduit les choses ainsi, qui a ordonné les choses ainsi, qui a voulu les choses ainsi. Nous nous plaçons, nous nous mettons à ta disposition. Agrée-nous, accueille-nous et bénis-nous de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louez et remerciez le Seigneur pour sa sainte et précieuse parole. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais sa parole demeure éternellement. Et nous sommes reconnaissants pour chaque parole. Comme déjà cela a été dit, où nous pourrions lire, ouvrir la Bible, nous sommes heureux de ce que nous pouvons la lire et que nous pouvons la voir dans ces derniers jours. Peut-être que nous venons à la fin maintenant, nous pourrons encore ensemble chanter un cantique. Peut-être que nous chantons quand le matin éternel apparaîtra et que le temps n'existera plus. Le 544. Nous voulons chanter ce cantique dans la foi, dans la conviction et dans la prière. Quand le matin éternel apparaîtra et que le temps n'existera plus. Et des millions viendront de partout. Quand le Seigneur prendra les siens, je serai présent. Je répondrai. Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai. Quand le Seigneur appellera les siens. Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai par la grâce de mon Sauveur. Je répondrai. Je répondrai présent. apprêtons-nous pour ce jour. Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai présent. Nous voulons de tout notre cœur penser à l'importance de ce jour et avec sérieux mettre la parole de Dieu en pratique. Pour que nous puissions dire au Seigneur, viens, viens, car je suis prêt. Quand le Seigneur appellera les siens, je répondrai présent. Quand le Seigneur appellera, je répondrai présent. Nous voulons encore nous lever pour la prière finale. Dieu fidèle, nous te remercions encore une fois ensemble pour ta grâce, pour ta fidélité. Et nous savons, Seigneur, que c'est seulement par ta grâce que nous serons là-bas. Pas par mérite, non, mais parce que tu nous as aimés, tu as parlé avec nous, tu nous as représenter ta parole devant nous, devant nos yeux. Nous pouvons la croire et nous tenir sur ta parole, nous appuyer sur elle. Nous savons qu'elle est vraie, qu'elle est véritable. Joseph était dans les chaînes. Il a attendu jusqu'à que la promesse s'accomplisse. Et ensuite, alors, il a été libre. Alors, il est devenu prince. Il est devenu chef. Seigneur. Seigneur, il est devenu que nous puissions peut-être parfois comme paralysés être ici ou bien. Mais le temps arrive où tu nous prendras auprès de toi. Oh, honneur soit à ton saint nom. Seigneur, nous attendons à ce matin éternel, glorieux, quand il apparaîtra. Adoration et honneur te soit apporté, Seigneur. Nous savons qu'il viendra comme le jour d'aujourd'hui est venu. Car ta parole est véritable et certaine. Et ce que tu as promis, tu l'accomplis, Seigneur, dans chaque âge, dans chaque époque. Tous tes serviteurs, aussi Moïse et Joseph, ont dû passer par des difficultés. Mais ils savaient une chose, l'heure arrive où la fin sera couronnée. Seigneur, nous savons que ce jour aussi arrive pour nous, où nous aussi notre fin sera couronnée, si nous serions restés fidèles. Et rester avec ta parole, avec toi et à ta parole. Adoration te soit apportée à ton Saint-Nom. Sois avec nous maintenant, Seigneur, même si nous nous séparons, que ta main protectrice reste sur nous aussi cette nuit et conduis-nous demain de nouveau à venir ici pour louer ton Saint-Nom et être attentif à ce que tu as à nous dire par ta sainte et précieuse parole. À ton nom soit l'honneur. Amen. Seid nun dem Herrn und seiner Gnade befohlen.